L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser à un produit qui a le vent en poupe, ce sont les trackers, les ETF pour Exchange Traded Fund en bon français. Ces fonds qui répliquent un indice de référence, mais pas seulement. Alors pourquoi ces ETF ont-ils le vent en poupe? Pourquoi de plus en plus d'investisseurs choisissent ce placement? Pour les particuliers, comment utiliser cet outil d'investissement dans son PEA, dans son assurance vie? On verra si c'est possible ou pas. Et puis enfin, quels sont les nouveaux supports, les innovations chez BNP Paribas comme chez Lyxor? On va le voir. Ces produits s'inscrivent-ils enfin dans une démarche d'investissement responsable? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, deux spécialistes sur le plateau. Jérémy Toubiana, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes responsable vente ETF distribution chez Lyxor Asset Management pour la France. Et Bertrand Alfandari, bonjour Bertrand.
Bonjour à toutes et à tous.
Responsable du développement de l'activité ETF et fonds indiciels de BNP Asset Management. Pour présenter cette émission, je suis en compagnie également de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Eh bien très bien.
Bon, vous allez nous présenter évidemment ce que sont également ces produits dans
tout
un instant. Voilà, et puis on verra effectivement ces ETF, comment ça fonctionne. Une émission Hebdo Patrimoine spéciale ETF cette semaine. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Voilà, pour poser les bases du sujet, je me tourne vers vous, Bérénice.
Oui,
alors, ces trackers, ces ETF, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, les ETF sont aussi appelés trackers, hein, comme vous le dites, car ils suivent à la trace un indice boursier, tout simplement. Alors, pour comprendre leur fonctionnement, il faut d'abord connaître le principe des fonds indiciels. Alors, un fonds indiciel, qu'est-ce que ça permet de faire quoi? En fait, ça permet d'investir dans un grand nombre d'actions d'un seul coup. Plus précisément, un fonds indiciel est un fonds de placement qui réplique la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40, hein, présentant les 40 plus grandes sociétés cotées en France, je le rappelle. Il suit fidèlement la performance de l'indice car il achète toutes les actions qui le composent, en fait, tout simplement.
Ouais, pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent.
Alors, un exemple, lorsque vous investissez, par exemple, 1 000 euros dans un fonds indiciel, vous achetez en réalité l'équivalent de 1 000 euros répartis dans chacune des actions de l'indice choisi sur le fonds indiciel dans les mêmes pondérations que l'indice suivi. Comme la stratégie d'investissement en fait, qui consiste à acheter toutes les actions d'un indice et à les conserver longtemps est relativement simple, les fonds indiciels, forcément, sont peu gourmands en frais.
Et voilà, c'est que c'est pas très cher.
C'est pas
et
très
cela
cher,
explique
oui.
En partie le succès de ces produits.
Tout à fait. Alors, c'est un de leurs principaux avantages. Hein. La plupart des ETF facturent entre 0,05% et 0,30% de frais de gestion par an, donc c'est peu, ce qui les situe bien en dessous des fonds activement gérés dont les frais dépassent souvent les 2%. Par an. Certains ETF sont plus compliqués que d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus accessibles. Là où les ETF classiques les plus anciens se contentent de répliquer un indice boursier reconnu, d'autres ETF plus récents, un peu plus nouveaux, adoptent une gestion plus active, répliquent des indices complexes ou encore utilisent un effet de levier.
Bon, on va le voir tous avec nos invités dans quelques instants. Une dernière question, est-ce que du coup, ces trackers, ces ETF, est-ce qu'ils attirent de nouveaux clients?
Eh bien, vous l'avez dit en début d'émission, ils ont le vent en poupe justement, puisque l'AMF, hein, qui est l'autorité des marchés financiers, a noté une hausse de 60% en 2 ans. C'est énorme. Le nombre de particuliers actifs en ces produits financiers est passé de 143 000 en 2018 à 233 000 en 2020. Donc, c'est énorme.
Merci Bérénice. On se tourne justement vers nos deux invités, deux spécialistes éminents hein, chez Lyxor, l'autre chez BNP. On commence avec vous, Jérémy. C'est vrai qu'on voit, alors on sait, hein, cette année 2020 a été exceptionnelle, malgré un coup de tabac assez difficile sur les bourses mondiales suite à l'explosion de la Covid-19. Pour autant, ça a bien repris et il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Est-ce que ces nouveaux investisseurs, ils se sont reportés également sur les ETF?
Effectivement, ça a été finalement pour nous, une petite surprise. Quand on a vu les marchés baisser à la suite du Covid, on s'attendait à une crise globale et que, justement, ça allait pas aider les investisseurs particuliers à épargner plus. Finalement, il s'est passé tout l'inverse. Je pense que les investisseurs particuliers ont compris ce qui s'est passé. Ils ont identifié le Covid comme une baisse. Ils ont compris que c'était sans doute à court terme. Et ils ont cherché à se positionner sur les marchés financiers. Et donc, au lieu d'avoir des appels chez nous pour nous dire je veux me désinvestir des ETF ou je veux sortir des marchés financiers, c'est la catastrophe, on a eu l'effet complètement inverse. On a eu des clients, même des nouveaux clients, des nouveaux investisseurs qui se sont dit tiens,
c'est le
je
moment.
Vais profiter de cette baisse pour rentrer sur les marchés. Mmh. Et là où il y a eu un phénomène intéressant, c'était que ce n'était pas pour rentrer à court terme pour faire un coup, c'était pour préparer, aller sur un horizon d'investissement long terme. Et ça, ça a été vraiment la nouveauté qu'on a pu observer. Les chiffres de l'AMF le confirment et le confirment encore plus en 2021 où on voit que la tendance est là. Et donc, effectivement, les ETF ont profité de cet engouement en 2021, en 2020 et en 2021.
Ouais, moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que ce n'est pas évident dans les forts mouvements de marché comme ça de se dire sur quoi réinvestir. Comme l'a bien expliqué Bérénice, là, l'ETF, c'est le moyen, Bertrand Alfandari, de se mettre directement sur un indice, le Nasdaq, le CAC 40, très facilement finalement.
Oui, il y a plus d'indices cotés que de valeurs mobilières. Donc le champ des possibles pour investir via un ETF est extrêmement large. C'est le cas au niveau mondial, parce qu'il y a à peu près 8000 ETF au niveau mondial, mais c'est le cas aussi en Europe, puisqu'on a près de 2000 ETF listés en Europe. Donc oui, on peut investir sur des indices qu'on appelle classiques, généralistes, comme Bérénice le disait, sur le CAC 40, sur l'Eurostock 50, sur le S&P 500 aux États-Unis. Donc là, on va répliquer le marché domestique, le marché local américain, émergent, la Chine. On peut retrouver des ETF et plusieurs ETF qui répliquent le même indice ou qui répliquent la même classe d'actifs ou la même zone géographique. Ou alors, on peut aller, je dirais pas sur des indices plus complexes, mais des indices plus thématiques. On a soit du smart beta, bon, on ne va pas rentrer dans le détail.
Ah, là, ça y est, il nous perd déjà.
Non, peut-être moins connu aussi du grand public.
Moins connu, mais on peut être sur des indices thématiques où là, on ne va pas reproduire l'économie d'un pays, mais on va faire des choix sectoriels, soit sur l'aspect sociétal des entreprises, avec des filtres sociétaux, soit avec des filtres de gouvernance, soit avec des filtres environnementaux, avec un biais plus environnemental. Et là, effectivement, Jérémy le disait, il y a eu un gros succès en 2020 sur les ETF, mais aussi un gros succès sur les thématiques ESG. Et c'est pour ça qu'ils se sont positionnés aussi sur le long terme, parce que quand on va sur des thématiques ESG, on n'y va pas sur un mois, trois mois ou même un an. Oui. On y va sur 5 ans, voire 10 ans, voire pour un projet de préparation de la retraite.
Après, pendant le confinement aussi, on a beaucoup parlé des marchés qui s'effondraient. Donc, beaucoup de personnes avaient le temps, puisqu'on n'avait que ça à faire pendant le premier confinement, regarder la bourse, comment ça évoluait. Et on sait très bien que quand ça s'écroule, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Et justement, j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes s'intéresser aux ETF, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément. Mais ce qui attirait aussi, c'est l'effet de levier qu'on retrouve chez certains ETF. Donc, ça aussi, ça a beaucoup... je pense que c'est ça qui a fait que ça a été en plein essor depuis...
Alors on va demander à Jérémy, parce que il y en a chez BNP, mais c'est vrai qu'il y a des produits archi connus qui répliquent dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on peut jouer aussi bien à la hausse avec effet de levier qu'à la baisse avec effet de levier quand on pense qu'effectivement les marchés vont plonger.
Alors là aussi, ça fait partie d'une thématique d'ETF qui est utilisée. Alors souvent par des investisseurs avertis, parce qu'effectivement c'est des produits, c'est les plus techniques justement, un peu complexes dans l'industrie ETF, c'est des produits à vraiment utiliser à très court terme, donc c'est vraiment des ETF opportunistes qu'on va vraiment utiliser à très court terme, voire même sur un seul jour. Ce qu'on peut malgré tout...
On achète le matin, on vend le soir.
L'objectif de ces ETF, c'est de les garder en un seul jour, effectivement, donc c'est pas de les porter. Par contre, effectivement, ce qu'on a vu, c'est l'intérêt pour des indices beaucoup plus simples. Et ça a été ça la nouveauté, justement. La grande question que se posent les investisseurs souvent, c'est quoi acheter. C'est compliqué de se retrouver dans les valeurs du CAC 40. Est-ce qu'il faut choisir du Vinci, du Danone, du BNP, du Société Générale? C'est un peu compliqué. Par contre, on a peut-être envie d'investir au global dans les fleurons de l'économie française. Et donc l'ETF a cet avantage de permettre en une seule transaction d'acheter toutes les valeurs d'un indice, et surtout avec des faibles montants. Parce que là aussi... quand je cherche à investir sur une action, pour acheter une seule action, je suis dépendant du prix de la part. Donc si le titre vaut 500 euros, je suis obligé de débourser au moins 500 euros. Un ETF CAC 40...
Et puis c'est pas fini. Il y a bien évidemment les frais de courtage, mais ça dépend des courtiers, des brokers, etc. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses. Mais il y a surtout aujourd'hui, pour les actions, la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui est bien plus chère maintenant que les frais de transaction. Et au final, c'est vrai qu'avec les ETF... D'ailleurs, est-ce qu'on paye des frais de transactions financières
Ils vont être impactés, effectivement, dans la performance finale de l'ETF. C'est un fait. Donc ça touche, malgré tout... tout l'écosystème. Par contre, effectivement, les frais de courtage vont être identiques si j'achète un titre du CAC 40 ou un titre ou un ETF. Par contre, là, il va avoir un intérêt, et c'est là aussi les flux qu'on a vus beaucoup, c'est le positionnement sur des ETF internationaux, le MSCI World, le S&P 500, le Nasdaq, où là, effectivement, souvent, les frais de courtage sont beaucoup plus élevés que lorsqu'on achète un titre. Par exemple, si je veux acheter du Apple, bah, ça va me coûter souvent plus cher en frais de courtage que acheter un titre français. Grâce aux ETF, je vais payer les mêmes frais de courtage parce que l'ETF est coté sur la place boursière, souvent de Paris.
Ouais. Pour ceux qui nous écoutent justement et qui s'intéressent à cette classe d'actifs, on a souvent la question, est-ce que je peux en mettre dans mon PEA, mon plan d'épargne en action, est-ce que je peux en mettre dans mon assurance vie ? Bertrand, le PEA tout d'abord, plan d'épargne en action.
La réponse est oui. On n'est pas tous. Donc certains ETF sont éligibles au PEA. Donc chez nous, c'est à peu près la moitié de notre gamme. Donc évidemment, tous ceux qui sont investis sur les actions européennes vont être éligibles au PEA. Mais on peut aussi retrouver des ETF qui répliquent des indices américains ou des indices actions pays émergents. Évidemment, pas les ETF sur indices obligataires dont on n'a pas parlé encore. Mais sur les indices actions, on peut aussi mettre des États-Unis dans le cadre de son PEA. Donc on peut diversifier.
Donc ça veut dire que je peux acheter comme d'un clic finalement, m'exposer au marché
comme
américain et ça sera dans mon PEA avec les mêmes règles fiscales, je ne peux pas imposer.
Exactement, on a un ETF qui réplique le S&P 500 qui est éligible au PEA, et il y en a même un qui est couvert contre le risque de change et qu'on peut donc intégrer dans ce PEA comme une stratégie de diversification, puisque le PEA est souvent composé d'actions en direct, françaises souvent, parfois européennes, rarement mondiales. Et donc là, la possibilité de diversifier à l'international, c'est d'intégrer des ETF éligibles au PEA, et il y en a un certain nombre. Pour l'assurance vie, ils le sont tous par nature. On est sur des fonds UCITS, donc on est dans un cadre réglementaire exactement comme sur n'importe quel fonds de gestion active. Hein, c'est les mêmes règles. Mmh. Donc la protection de l'épargnant est assurée au même titre que sur n'importe quel fonds. Et tous les fonds UCITS, comme les ETF, sont par nature éligibles à l'assurance vie. Après, est-ce qu'ils sont référencés ?
Qu'ils soient référencés dans le contrat.
Ça, c'est une autre question. Et là, les compagnies d'assurance ont leur propre...
Ça dépend de la compagnie, en fait.
Voilà, la compagnie, certains ne référencent pas d'ETF. Mmh. On a, je crois, quasiment 40% des contrats d'assurance vie en France qui référencent au moins un ETF, selon l'Observatoire Cantalis des ETF 2021. Et on a en moyenne 20 ETF référencés par contrat d'assurance vie. Donc oui, il y a eu un chemin très important qui a été réalisé de la part des assureurs. On se serait parlé il y a 2-3 ans, on n'aurait pas tenu le même discours. Il y avait évidemment beaucoup de choses qui avaient été faites en matière de référencement en assurance vie, mais aujourd'hui, ça avance très vite sur le référencement assurance vie.
Et là, donc, il y a de plus en plus de compagnies, justement, qui les proposent et qui les référencent dans leur...
Voilà. Avant, c'était plutôt des compagnies web, online, des plateformes assurance vie sur de la souscription digitale, on va dire, ou des robots advisors, ou des compagnies d'assurance vie, des plateformes dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Maintenant, ça concerne
c'est
accessible à tout le monde, et même les contrats classiques, je dirais, d'assurance vie, des compagnies d'assurance vie traditionnelles commencent à référencer des ETF, et on va même retrouver des contrats 100% ETF qui ne référencent que des ETF dans en tant qu'unité de compte.
On a travaillé justement sur ce sujet-là. On a créé un moteur de recherche ETF par contrat d'assurance vie pour aider les investisseurs, donc les particuliers, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers à s'y retrouver. Et donc, on recense au moins 70 promoteurs, donc distributeurs qui référencent des contrats. Ça représente 160, alors je parle d'ETF Lyxor, ça représente 160 contrats en tout, effectivement. Et comme le disait Bertrand, ça ne touche pas que le secteur Internet, qui est effectivement assez précurseur. Hein. Quand on va sur Internet, c'est pour avoir accès à des solutions d'investissement low cost, on va dire. Donc les ETF faisaient partie de la vitrine. Mais là, effectivement, dans ces contrats de conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, on retrouve des ETF, on retrouve des contrats à 100% ETF, et on retrouve même des gestions pilotées, des mandats de gestion 100% ETF. Et là, c'est la vraie innovation. Et aujourd'hui, plus compliqué de ne pas trouver d'ETF que d'en trouver. Donc effectivement, ce n'était pas le cas il y a 3 ans.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que, Jérémy Tumiana, je précise, hein, c'est vrai que cet outil pour faire le filtre et voir ce qui est utilisable ou quels sont les ETF éligibles à un contrat d'assurance vie, alors pour l'instant, c'est réservé à Elixir, c'est vous qui l'avez développé avec justement Cantalis, on en parlait il y a un instant. Bon, je pense que ce sera développé pour les autres aussi, mais c'est effectivement très pratique que vous soyez, je sais pas, chez Fortuneo, chez Vie+, chez Cardif, etc. Ben, vous avez effectivement tous les contrats éligibles. Messieurs, dames, on va marquer une première pause musicale. On se retrouve juste après pour voir justement le champ des possibles avec ces ETF, comment investir aussi de manière utile. La finance responsable, on en parle de plus en plus. Eh bien, on va voir qu'avec les ETF, on peut aussi jouer cette carte dans son portefeuille. À tout de suite.
Et on est reparti en 1986 avec Always the Sun. Ça vous a plu, hein, The Stranglers.
Stranglers, pardon. Le choix de Bertrand Alphandaré.
Exactement. Très bon choix. C'est très agréable de commencer comme ça en musique.
Un petit côté vintage.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Hebdo Patrimoine spécial ETF ce matin avec nos invités Bertrand Alfondari, BNP Paribas Asset Management et Jérémy Toubiana, Lyxor AM. Messieurs, on a parlé, c'est vrai, de ce succès, un montant grandissant des ETF. On l'a vu, produit simple à utiliser, qu'on peut mettre dans son assurance vie, dans son PEA, voilà, qui a vraiment explosé et en 2020 et en 2021. Le prix, bien évidemment, voilà, la simplicité, non mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de succès, Bertrand ?
Oui, alors le prix, juste pour donner un exemple concret, on est à 0,25% de frais de gestion en moyenne sur les ETF en Europe.
Ça, rien du tout.
Donc on disait tout à l'heure, ouais, ça va de 0,05 à 0,30, bon, ça peut aller au-delà de 0,30, mais oui, en moyenne c'est 0,25.
Oui, on peut peut-être les comparer justement avec les fonds traditionnels qui ont des frais de l'ordre de 2%, les frais courants de l'ordre de 2%. Mm-hmm. Effectivement, il y a une écart sur une classe d'actifs équivalente. Mm-hmm. Il y a quasiment un...
Et est-ce qu'il y a des frais d'entrée, comme sur les fonds, parfois ?
Non, il n'y a pas de frais d'entrée ni de sortie, sauf si c'est souscrit dans le cadre d'une assurance-vie, où là, on va avoir les droits d'entrée et de sortie éventuels du contrat.
De la compagnie,
si
en fait.
S'il y en a, voilà, de la compagnie d'assurance. Mais Fabrice, pour répondre à votre question, oui, il n'y a pas que les frais. D'ailleurs, nous, enfin, quand on me demande quels sont les avantages, les frais arrivent généralement, pour moi, en dernier. C'est la petite cerise sur le gâteau. Oui. Le principal avantage, on en a parlé rapidement, je vais pas y revenir, c'est la diversité de l'offre. Donc on veut investir sur un marché, sur une classe d'actifs, sur une thématique, on trouvera quasiment toujours l'ETF qui correspond à ce sur quoi on a
envie. Est-ce que, juste selon vous, c'est pour ceux qui veulent investir rapidement, sans trop s'y pencher ?
Ah, c'est-à-dire sans y passer trop
exactement
de temps.
Exactement, sans trop réfléchir à est-ce
Google,
que je fais le bon
Amazon,
choix, c'est ça,
j'achète
est-ce que
tout
c'est...
le Nasdaq, et puis voilà, quoi.
Oui, ça permet de gagner du temps, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il ne faut pas y consacrer du temps avant de choisir un ETF ? Je dirais que si, quand même, faut s'y pencher, faut regarder l'ETF, faut regarder la solidité de l'émetteur, faut regarder la qualité de réplication, pas uniquement les frais de gestion, faut regarder le type de réplication. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail, mais oui, il faut quand même y consacrer du temps. Mais après, une fois qu'on a décidé de faire son allocation d'actifs géographique et d'investir sur tel marché, bah après, on fait son choix, on choisit le meilleur, le plus performant, ou on choisit en fonction des frais de gestion. Après, chacun a ses propres critères, et d'ailleurs les compagnies d'assurance vie ont leurs propres critères pour sélectionner les ETF. Est-ce qu'il a été lancé il y a plus d'un an ? Quelle est sa performance sur 5 ans ou sur 3 ans ? Chacun va utiliser ses critères. Mais c'est vrai qu'on gagne un temps fou quand on se dit, bah voilà, je peux investir sur un ETF, comme disait Jérémy tout à l'heure, qui réplique le MSCI World. On ne sait pas si je dois investir sur les marchés émergents, sur l'Europe, sur la zone euro, sur les États-Unis, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on doit en sortir pour réallouer son portefeuille. Donc on va sur un indice monde, action, et puis voilà, on n'y touche plus et on le garde pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Et puis comme disait Jérémy aussi, ça permet aussi de mettre moins d'argent peut-être pour commencer, parce que les ETF coûtent moins cher que certaines actions. Du coup, voilà, on met une petite somme pour commencer, voir comment ça réagit, voir si ça nous plaît. Et puis,
D'ailleurs, c'est idéal par rapport à ces petites sommes de pouvoir investir au sein de son assurance vie, où c'est plus facile, mais aussi de son PEA, d'investir régulièrement en fait.
Oui.
On peut allouer
chaque
une
mois,
petite somme, comme le prix d'un ETF est faible souvent. Je peux allouer, investir une part pour 200 euros tous les mois. Et c'est là aussi la grosse évolution par rapport aux années précédentes, où effectivement on investissait une grosse somme d'argent, où j'avais juste un héritage, où j'avais un peu d'argent de côté, je mettais tout d'un coup. Là, c'est une philosophie un peu différente. J'achète tous les mois, je prépare mon avenir et l'ETF, c'est un bon instrument pour le faire.
On peut lisser ses investissements.
Exactement.
Tiens, on parlait de PEA, on parlait d'assurance vie. Il y a un nouveau produit aussi qui cartonne en ce moment, enfin depuis un an et demi qu'elle a été rentrée, c'est le PER. Est-ce qu'on peut trouver des ETF dans certaines compagnies et pour le mettre dans son plan d'épargne retraite ?
Oui, et c'est encore plus adapté avec les ETF, puisqu'on l'a vu, notamment avec les frais de gestion réduits, sur le long terme, l'économie qu'on peut faire sur les frais, elle a un énorme impact sur le long terme. Donc oui, clairement, on va retrouver des ETF dans le PER. On peut le retrouver à travers le moteur de recherche qu'on a lancé. Et ça a un intérêt d'autant plus parce que le PER, c'est un horizon d'investissement long terme.
Ouais. Mais c'est bloqué
donc,
jusqu'à la retraite.
Moins il y a de frais potentiellement, plus ça va être une opportunité en termes de performance sur le long terme. À condition d'avoir la bonne allocation, évidemment.
C'est d'ailleurs l'un des relais de croissance privilégiés sur le marché français. Parce qu'en fait, en France, on est quand même en retard, faut le dire, par rapport aux États-Unis, rapport en Grande-Bretagne.
On commence à s'y mettre maintenant.
À s'y mettre maintenant, surtout au niveau des investisseurs particuliers. Ouais. C'est un marché qui est essentiellement dirigé par les flux provenant d'investisseurs professionnels, encore aujourd'hui, plus de 80% des flux. Mais le relais de croissance va se faire avec la clientèle d'investisseurs particuliers ou de conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, les deux relais, les deux enveloppes qui vont être privilégiées, c'est un, l'assurance vie, on en a parlé, et deux, l'épargne retraite. Donc oui, on compte beaucoup là-dessus pour que le marché se développe plus sur en France.
Avec ce fameux fléchage de l'épargne, sortir des fonds euros hyper sécurisés, grosses enveloppes pour aller effectivement sur des fonds actions, des fonds beaucoup plus actifs. Tiens, j'ai une question quand même sur les limites ou les risques qu'on peut avoir sur ces différents produits. On nous parle souvent d'un risque au-delà du risque systémique, c'est-à-dire qu'on se dit si tout le monde investit sur les ETF, comme ce sont des produits qui répliquent quand même quelque chose de physique, est-ce que ça pose pas problème s'il y a plus d'argent finalement sur la réplication des indices, donc des actions? Il faut quand même qu'à un moment, il y ait de l'argent qui s'investisse sur les actions. Est-ce que c'est un risque que vous prenez en compte, là, le fait qu'il y ait une espèce de finance qui investit de plus en plus sur ces produits?
Alors, nous, on a regardé ce qui s'est passé justement l'année dernière, parce qu'effectivement, c'est une grosse inquiétude de la part des investisseurs. On parle de plus en plus d'ETF, mais déjà, il faut rappeler que les ETF, ça ne représente pas l'essentiel des encours de la gestion d'actifs en Europe. Je crois que les chiffres, on est autour de 10-15%, si
oui,
je dis pas de bêtises.
Oui, 12%, je dirais.
Donc, on est quand même sur un ratio d'emprise qui est quand même limité par rapport à la gestion traditionnelle. Ensuite de ça, l'exemple de l'année dernière, c'est un superbe exemple de la solidité des ETF sur le marché. On a eu une énorme crise et donc l'inquiétude, c'est de se dire que les ETF vont amplifier la baisse des marchés parce que ça réplique un indice. En fait, il s'est passé tout l'inverse. Donc déjà, il n'y a pas eu aucun problème sur les indices côté en Europe.
Pas de problème de liquidité. On pouvait quand même continuer à l'acheter en vente. Il n'y a pas eu de suspension de cotation en disant...
Et à l'inverse, on a vu des rentrées sur les ETF au moment où le marché baissait. Donc les ETF sont souscrits. Pourtant, le marché baisse. Donc il y a quand même de quoi se poser la question. Donc ce n'est pas les ETF qui ont entraîné la baisse des marchés financiers. Au contraire... Et même plus, la seule classe d'actifs qui collectait, c'était justement, je crois qu'on va en parler un peu tout à l'heure, c'était l'ESG, les investissements environnement, sur l'environnement, le social et tout ce qui est tout ce qui touche à la gouvernance d'entreprise. Donc c'est un point essentiel. Les ETF, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, il n'y a pas eu de sujet majeur, il n'y a pas eu de crise de liquidité. Et quand bien même il y en aurait eu, je crois, aux États-Unis, il y avait peut-être eu un sujet sur des ETF obligataire, la réalité, c'était pas un problème sur l'ETF, c'était un problème sur le sous-jacent. Et donc, un gérant qui était actif, qui était investi sur le même sous-jacent que l'ETF, aurait eu exactement le même problème. Donc, pour répondre au risque, en fait, il y a un risque de perte en capital, comme tout investissement, mais il n'y a pas de risque supplémentaire, potentiellement, par rapport à un fonds traditionnel, surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, les ETF grossissent beaucoup, mais représentent encore peu dans la gestion d'actifs au global.
Alors, pour compléter, Bertrand.
Oui, si je peux me permettre de rajouter quelques risques quand même pour équilibrer un petit peu. Le risque de liquidité reste un vrai risque. C'est pas parce que ça ne s'est pas produit historiquement. C'est vrai que ça a été un excellent observatoire, février-mars 2020. Et on a passé l'épreuve, c'est vrai, de façon très positive. Et on est même allé chercher, comme disait Jérémy, de la liquidité dans les ETF. Et même les banques centrales sont allées chercher de la liquidité dans les ETF, notamment sur les marchés obligataires. Mais la liquidité reste un sujet sur un ETF, puisque c'est un fonds qui doit pouvoir s'acheter et se vendre à n'importe quel moment de la journée. Donc si ce n'est pas le cas, ou si on l'achète beaucoup trop cher parce que l'écart, la fourchette achat-vente est très large, parce qu'il n'y a pas de liquidité sur le sous-jacent, c'est vrai que c'est pas lié à l'ETF en lui-même, mais il y a un effet miroir entre la liquidité de l'ETF et la liquidité de l'indice qu'il réplique. Si on est sur des obligations émergentes avec peu de liquidité, des obligations qui se négocient une seule fois dans la journée, une seule fois dans la semaine, on se doute bien que sur un ETF qui se négocie tout au long de la journée, on va avoir une répercussion de cette liquidité. Donc la liquidité reste un vrai risque quand on parle d'ETF, même si on n'a rien observé de tel ces dernières années.
Est-ce qu'on est prémuni contre ce risque si on choisit quand même des gros ETF?
Oui, bien sûr.
Connu avec plusieurs millions, centaines de millions.
À partir du moment où on a un indice liquide, on aura un ETF liquide. Donc dès lors qu'on est sur des indices très liquides comme le CAC, l'Eurostock, le Stoxx Europe 600, le Nasdaq, le S&P, on a une énorme liquidité. Donc on va avoir, par ricochet, on va retrouver cette liquidité sur les ETF avec Ça veut dire quoi une liquidité? Ça veut dire la possibilité d'avoir quelqu'un en face de soi pour pouvoir l'acheter et le vendre. Ouais. Donc là, on a des établissements financiers qui s'appellent des animateurs de marché. On peut en avoir 3, 4, 8, 10 qui animent le marché sur un seul ETF. Donc on va retrouver plusieurs établissements financiers qui proposent un prix. Donc on va toujours pouvoir l'acheter et le vendre. Et puis, ça veut dire aussi la fourchette, ce fameux spread de cotation, la fourchette achat-vente. La fourchette achat-vente, elle peut être de 0,05%. C'est le cas sur le S&P en moyenne, parce qu'on est sur un indice très liquide. Et là, on peut avoir des fourchettes plus larges. Et donc, on va acheter un petit peu plus cher ou on va vendre un petit peu moins cher son fonds dès lors qu'on sera sur des indices un peu plus exotiques. Juste un dernier mot sur le risque de change à ne pas oublier. C'est pas un risque intrinsèque à l'ETF, c'est un risque qu'on va retrouver sur n'importe quel placement, mais attention, dès lors qu'on décide d'investir sur un ETF qui est sur un indice action sur une zone hors euro, ça veut dire qu'on peut être sur de la couronne suédoise, sur de la livre sterling, sur du dollar. Et là, donc on peut aussi essayer de trouver un ETF qui est couvert contre le risque de change si on ne veut pas s'exposer à ce risque supplémentaire.
Jérémy. Et ce risque de liquidité et de change, finalement, c'est un sujet qui touche les ETF, mais qui touche tous les types d'investissements. Oui. Donc on peut avoir ce risque de liquidité sur une action, et on peut avoir aussi un risque de liquidité sur des fonds classiques, traditionnels. Il y a eu certains fonds l'année dernière qui ont coupé les souscriptions ou les rachats. Donc c'est un sujet.
Il y a toujours un risque quand on fait un investissement.
Il y a un risque quand on investit sur les marchés financiers, quel que soit le support. Et effectivement, c'est un point à prendre en compte. Le risque qui existe sur les ETF, c'est un risque qui existe sur tout type de d'investissement financier.
Bien sûr.
Je peux me permettre de rajouter juste un petit point. Il y a aussi un dernier risque qu'on oublie. C'est le risque de ne pas faire mieux que l'indice.
C'est effectivement.
Bon, on parle ça, de gestion active.
C'est plus compliqué à comprendre puisque vous promettez quand même qu'il y aura c'est le fameux tracking error, c'est ça pour vos gérants.
La tracking error, c'est ce qui va déterminer la déviation du fonds par rapport à son indice de référence. Si la tracking error est très très faible, ça veut dire qu'on superpose la courbe de l'indice qu'on réplique et la courbe de l'ETF. Ça veut dire qu'il y a une qualité de réplication qui est parfaite avec une tracking error de zéro.
Mais ça veut dire que je peux avoir un cas qui fait plus 8% et moi je suis à plus 4 quand même.
Non, non, alors là on n'est pas sur la tracking error, on est sur autre chose qui s'appelle la tracking difference. Et là, c'est ce qu'on peut appeler ça l'alpha, c'est-à-dire la capacité à faire mieux ou moins que l'indice qu'on réplique. Normalement, un gérant doit se rapprocher le plus près possible de la performance
de
son indice. Ça, c'est la tracking difference. Donc non, Fabrice, si le CAC fait plus 8, l'ETF qui réplique le CAC 40 ne peut pas faire plus 4. Il fera plus 8, plus moins les frais de gestion en moyenne, à quelques points de base. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on choisit de la gestion active, on choisit un gérant de conviction qui est là pour surperformer un marché. Ouais. Et on le paye pour ça. Quand on dit qu'on paye 2%, ça peut sembler cher, mais on paye un gérant pour ça. Alors que l'indiciel, oui, c'est peu onéreux en termes de frais de gestion, relativement à la gestion active, mais on paye le gérant pour qu'il réplique le mieux possible l'indice, mais pas qu'il fasse mieux.
Qu'il fasse mieux. Et c'est là tout le problème, c'est que sur des séries très longues, on sait que c'est excessivement difficile de battre l'indice. Et c'est pour ça que même les plus grands gérants, on pense à Warren Buffett, a dit, une fois que je serai parti, il conseille à sa femme d'investir une partie de sa fortune sur les ETF. Étonnant, hein, pour un gérant de conviction.
Sur ça, on fait des études, justement, sur l'actif passif performance. Là, on a une étude qui s'appelle l'actif passif navigateur pour aider, justement, les investisseurs à choisir. Et, en fait, on remarque sur les marchés très efficients, comme les États-Unis, sur 10 ans, par exemple, ils sont à peine 2% à avoir réussi à battre un indice américain. Seulement 2%. Donc, effectivement, ça reste très limité. En plus, il faut trouver les bons gérants, on le juge a posteriori. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, les investisseurs particuliers se dirigent vers ce type de classe d'actifs, les États-Unis, les actions monde, qui sont les marchés où finalement, les gérants ont du mal à surperformer. Et donc, privilégier les ETF, à l'inverse, sur des actions type value européenne, il y a des superbes gérants. Et là, justement, les flux vont plutôt vers la gestion active.
Bon, c'est bien. On va quand même pas se fâcher avec tous nos amis gérants qui font un boulot formidable sur pas mal de classes d'actifs. Dans un instant, on va parler de notre grand sujet du jour. C'est effectivement ces ETF, ces trackers qui investissent aussi et la gestion thématique et surtout tout ce qui est finance responsable, ISR, ESG. On va tout savoir sur comment investir sur cette finance responsable avec les ETF. À tout de suite. Grave.
Happy de Pharrell Williams, la chanson qui met de bonne humeur, le choix de Jérémy, qui
fait
était
bon, on en profite.
Happy ouais. Ce matin.
On continue sur Hebdo
Patrimoine. Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine spécial ETF, Exchange Traded Fund, les trackers, avec nos invités Jérémy Toubiana de l'Ixor ETF, Bertrand Alfandari, BNP Paribas Asset Management. On l'a dit, les ETF qui séduisent lentement, mais sûrement de plus en plus de particuliers, d'épargnants qui s'intéressent à la bourse, à leurs placements. Ces placements qui ont opéré un virage ces dernières années. On veut de plus en plus investir utile. Voilà, la finance se doit d'être responsable et c'est tant mieux. La question, c'est est-ce que grâce à ces ETF, on peut investir aussi sur toute cette gamme dite ESG, donc qui respecte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Bertrand.
Oui.
Merci.
Merci voilà, de la réponse.
C'est tout. Non. Alors, si vous le permettez, je vais vous donner juste quelques chiffres. L'ESG, les indices ESG et ISR au niveau mondial, même si l'offre s'étoffe, mais ça reste encore assez limité. C'est 3% des encours ETF au niveau mondial. En revanche, quand on regarde en Europe, et évidemment on est beaucoup plus proche oui. de ces statistiques européennes, c'est 12% aujourd'hui, ces indices ESG et ISR. Et c'était moins de 4% il y a 2 ans. Mmh. Donc on voit bien que le poids des encours ESG, ISR dans les encours ETF en Europe a énormément évolué et l'offre aussi. C'est-à-dire que le nombre d'ETF ESG en Europe, c'est 300. Ça reste encore limité par rapport aux 1800 ETF listés en Europe, mais c'est la moitié des ETF au niveau mondial. Il y a 600 ETF ESG ISR listés D'accord. au monde et l'Europe représente 50%, alors qu'en fait l'Europe c'est 15% du marché mondial. Donc on voit bien que l'Europe et le marché français est très actif sur les nouvelles émissions d'ETF ESG ISR et on va alors là on va répliquer des indices soit ISR, donc c'est-à-dire qu'on va répliquer des classes d'actifs
investissement socialement responsable,
donc là où on va avoir des filtres investissement socialement responsable. Mmh. Nous, on va travailler avec des fournisseurs d'indices comme MSCI, qui est un grand fournisseur d'indices, spécialisé dans l'analyse financière, mais aussi l'analyse extra-financière. C'est tout l'intérêt de l'ISR, c'est d'aller sur des critères extra-financiers. Donc, il va y avoir des filtres et on va être sur ce qu'on appelle du best-in-class, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les meilleurs élèves en fonction de ces notes ESG au sein de chaque secteur. Mais on aura une représentation sectorielle proche de celle de grands indices boursiers comme le MSCI World, si on va sur du MSCI World ISR. À l'inverse, je dirais, pardon, sur les indices ESG, là, on est plus spécifique, plus thématique, plus sectoriel, plus on va être plus sur des exclusions de secteurs parce qu'on va répliquer un indice, par exemple, spécialisé sur l'environnement ou sur les aspects sociaux ou de gouvernance, ou les trois.
Ce que l'on voit aussi, c'est au niveau des flux que l'on voit depuis le début de l'année. Donc, cette année 2021, pour l'instant, c'est une année record de collecte par rapport aux années précédentes. Donc on collecte à peu près, au global en Europe, hein, tout émetteur confondu, près de 74 milliards de nouvelles collectes. Et les flux ETF représentent, la collecte ETF représente 50% de ces 74 milliards. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et l'année dernière, comme je disais un peu tout à l'heure, la seule classe d'actifs qui collectait quand tout baissait, c'était l'ESG.
D'accord.
Donc il y a un virage qui est pris.
Oui. Mais parce qu'on a vu aussi que ces critères ESG, ils nuisaient pas, bien au contraire, à la performance.
Alors, c'est pas effectivement, on pouvait se dire à un moment, c'était un sujet un peu marketing, greenwashing, mais pas du tout. Il y a un vrai travail qui est fait, alors évidemment côté gestion active sur la partie stock picking, mais Bertrand le disait, on travaille avec des émetteurs d'indices, donc MSCI, S&P, etc., etc., qui font un travail de sélection de sociétés, d'analyse de sociétés et d'analyse des critères extra-financiers. C'est fondamental, en fait. Et il y a tout ce travail qui est fait. Et que même si un ETF réplique un indice, bah, l'indice, il va être travaillé pour qu'il soit le plus ESG possible. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'ETF aussi labellisés.
Est-ce que c'est plus facile, peut-être aussi avant, pour les conseillers en gestion de patrimoine qui vendent ça à leurs clients ou qui disent, je crois que le passage à l'action, en tout cas, est plus facile hein, pour les investisseurs particuliers à se dire, bon, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, si c'est filtré, s'il y a ces fameux critères qui sont respectés, moi, je suis plus appétant.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, la diversité des ETF permettent en fait de ne pas forcément changer trop de cap. C'est-à-dire que je peux rester investi sur un indice MSCI World, j'aime bien l'indice MSCI World, et je peux lui mettre un filtre ESG. Donc je vais rester sur l'indice MSCI World en étant ESG. Donc ça, c'est déjà un point hyper intéressant. Après, il y a le côté, je ne vais pas juger que la performance. Donc il y a effectivement ce côté, je vais juger ces fameux critères extra-financiers. Maintenant, après, en termes de performance, on peut se rendre compte que l'investissement ESG, donc on ne va pas faire de conclusions sur le long terme parce que l'ESG commence à se développer depuis un ou deux ans, mais sur les périodes sur un an, par exemple, on s'aperçoit qu'un indice MSCI World ESG surperforme un indice MSCI World traditionnel. Performance passée ne préjugeant pas des performances futures, évidemment.
Et justement, est-ce que vous pensez que c'est une mode, cet engouement de la part des épargnants, ou ça va passer, ou justement ça va aller en s'amplifiant ?
Je pense que ça va aller en s'amplifiant parce que ça va faire partie de l'ADN de tous les
investisseurs.
Il y a une prise de conscience,
en fait.
Effectivement, il y a une prise de conscience et on se rend compte qu'on peut investir sur les marchés financiers en étant responsable. Et ça, c'est une tendance de fond qui touche l'industrie ETF, l'industrie de la gestion d'actifs au global et même les États.
Oui, mais Bertrand le disait, du coup, c'est plus français, plus européen, en fait, que dans le reste du monde.
Oui, c'est vrai que si on regarde sur les pays émergents, l'ESG n'est pas extrêmement développé, et aux États-Unis non plus, pas encore. Donc c'est vrai qu'on est plutôt avant-gardiste, je dirais, en Europe, notamment sur l'innovation produit. Est-ce que c'est l'offre qui fait la demande ou est-ce que c'est la demande qui fait l'offre, un peu les deux. On se rend compte quand même qu'il y a une appétence très forte pour aller sur des thématiques ESG, qu'on n'est pas du tout sur un effet de mode. Moi, je pense clairement que l'offre sera 100% ESG en gestion active comme en gestion passive dans quelques années et que les investisseurs n'auront pas le choix, non pas parce que les sociétés de gestion auront décidé de fermer l'accès à des indices ou des placements qui ne sont pas ESG, mais parce qu'on ne voudra plus que ça. Parce que c'est un facteur de stabilité dans un placement, finalement, avoir des critères ESG. Quand on est sur du MSCI World, on est sur 1600 valeurs à peu près. On va mettre des filtres ISR et on va se retrouver sur 400 valeurs. Donc on va réduire par 4 l'univers d'investissement d'un fonds ISR. Et pour répondre à la question de la performance, moi j'ai regardé sur 17 indices ESG ISR qu'on réplique. On a sur 5 ans, 3 quarts des indices ISR ESG qui font mieux que leur équivalent qui n'ont pas de filtre ISR ESG sur 5 ans.
D'accord.
Ça, c'est en termes de performance, alors qu'on réduit de façon drastique l'univers d'investissement avec ses filtres et ses exclusions. Et en parallèle de ça, parce qu'on va parler du couple rendement-risque, pas uniquement la perf, mais le risque, plus de la moitié de ces indices sont moins volatiles, de ces indices ISR ESG sont moins volatiles que les indices qui n'ont pas de filtre ISR. Alors que l'univers d'investissement est réduit par 3, par 4, par 5. Mmh. Donc, qui dit univers d'investissement réduit, normalement, dit une volatilité
plus importante.
Ouais. Et ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien qu'en fait, investir de façon responsable avec une conviction sur l'environnement, mais ou sur d'autres choses, mais c'est surtout les thématiques environnementales qui sont développées aujourd'hui via les ETF, apportent de la stabilité en termes de volatilité, apportent de la résilience en termes de performance, historiquement. Est-ce que ce sera le cas demain? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Donc en fait, investir responsable, c'est quelque part choisir des entreprises qui vont proposer une stabilité à très long terme.
Du coup, ça va impacter d'autres actions, d'autres forcément.
Oui, ça va inciter toutes les sociétés cotées à adopter les bons réflexes en matière d'ESG. Et donc, tout le modèle va tendre vers une gestion responsable des entreprises, pas qu'une gestion d'actifs responsable.
Il nous reste très peu de temps, mais on va conclure quand même sur peut-être vos innovations ou les produits, les nouveaux, tiens, le CRU 2021, puisque c'est très innovant, hein, le marché des ETF. Jérémy Toubiana chez Lyxor.
Alors, effectivement, on a déjà dans notre gamme des ETF un peu thématiques, brandés water, sur les nouvelles énergies, sur l'égalité homme-femme qui existent dans notre gamme. Et les innovations récentes ont été le lancement justement d'ETF méga trend, donc sur la digital economy, la disruptive technologie, avec un filtre ESG. Donc voilà, on ne se contente pas de lancer des nouvelles thématiques d'investissement. On intègre déjà des filtres ESG. Et plus récemment, on a lancé des ETF alignés sur le climat, alignés aux accords de Paris. Donc ils vont plus loin, entre guillemets, que la simple réduction de carbone. On est investi sur des sociétés qui respectent les engagements des accords de Paris pour justement des investissements plus responsables aussi au niveau du climat. C'est clé et donc ça fait partie de nos innovations qu'on a lancées l'année dernière.
Du côté de BNP ?
De notre côté, chez BNP Paribas Asset Management, en gestion indicielle, toutes nos innovations sont liées à l'investissement responsable. Donc on ne lance plus de fonds classiques sur des indices qui n'ont pas de filtre ESG ou alors c'est très rare. Les dernières innovations, l'année dernière, en octobre 2020, on a lancé un ETF qui réplique un indice Blue Economy, donc en lien avec la protection des océans, des mers, des littoraux, le transport maritime, la pêche, l'aquaculture, les énergies qui sont liées aux vagues, aux marées. Bref, ça, c'est notre dernière innovation. On avait lancé en 2019 un ETF sur un indice d'économie circulaire. Donc là, on se retrouve aussi sur des critères ESG, mais avec une dominante environnementale. Et puis, après, on a un indice infrastructure qu'on a transformé en ESG. On a transformé aussi des indices, comme le disait Jérémy, en PAB, c'est-à-dire Paris Sunrise Benchmark ou CTB, Climate Transition Benchmark, c'est-à-dire des indices qui vont être en lien avec la trajectoire de réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés, les accords de Paris.
Voilà, donc.
Juste pour conclure, c'est clairement dans l'ADN aujourd'hui des investissements. Il y a même, pour refaire le lien avec l'économie retail, entre guillemets, il y a aujourd'hui des contrats d'assurance vie ou des PER exclusivement ESG qui sont lancés et qui intègrent uniquement des fonds soit labellisés, soit ESG. Donc c'est vraiment une tendance de fonds, puisqu'on le voit dans des enveloppes d'épargne long terme, on n'a que ce type de fonds.
Voilà, pour en tout cas trouver vos ETF. ESG, pas ESG, pour diversifier vos portefeuilles. Les adresses internet, on les donne. Lixor.etf.fr et
easy.bnpparibas.fr.
Voilà. En tout cas, un grand merci à nos deux invités du jour. Bertrand Alfandrari pour BNP Paribas Asset Management.
Merci à vous.
Merci à Jérémy Toubiana, Lixor ETF, Lixor Asset Management. Merci Bérénice pour ce point de vue.
Merci Fabrice. Avec plaisir.
Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Très bonne semaine à tous.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.